7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous? Comment est-ce qu'il est cultivé? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontre avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 22 mars, j'ai décidé d'ouvrir une enquête sur le chocolat. À l'époque, Pâques battait son plein et le chocolat emplissait notre quotidien. Alors j'ai voulu me demander, mais c'est quoi vraiment le chocolat? D'où vient-il? Comment est-il fabriqué? Quel est son impact sur l'économie, l'environnement ou celles et ceux qu'il produisent? Alors j'ai ouvert une enquête. Ce que j'ai découvert est loin d'être rose et parfait, mais reste à mon avis essentiel à connaître. Dans cet épisode, je voulais un petit peu faire le bilan. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous n'allez certainement rien apprendre de nouveau, mais ça va vous permettre vous aussi de peut-être réfléchir à tout ce qu'on vient d'apprendre. Et si vous ne les avez pas encore tous écoutés, ça vous donnera peut-être l'envie de le faire. Pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai pu découvrir.
En 2012, il y a eu cette opportunité de revenir en République dominicaine. Et c'est là où on s'est dit, bah oui, allons faire du chocolat là-bas, ça sera bien, il y a du cacao, on connaît des gens là-bas, allons-y, lançons-nous. La première fois qu'on a ramené le cacao, on s'en souvient parce qu'on avait loué un camion qui, je crois, qu'il pouvait prendre une tonne de cacao. Et en fait, on est revenu à travers des pistes avec plus d'une tonne dans le camion. Franchement, le camion a pris cher. Et on se demandait si on allait vraiment arriver. À un moment, on s'était même arrêté dans un endroit très, très pauvre où on s'est fait encercler de motos. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'étais dans le coffre en train d'essayer de remonter les sacs de cacao qui déséquilibraient le camion. Et à ce moment-là, Candice a démarré parce qu'en fait, elle m'a dit, mais en fait, accroche-toi parce qu'on est encerclé de motos. Je sais pas ce qui va se passer. Donc on a démarré, la porte latérale était bloquée par les sacs de cacao et puis on s'est arrêté quelques kilomètres plus loin à l'abri. Ça a été une magnifique aventure, on travaillait avec les producteurs, on allait les voir régulièrement et en même temps ça s'est arrêté violemment parce qu'au bout d'un an, on a été obligé de tout abandonner.
J'ai commencé cette série en rencontrant Encuentro qui m'a tout expliqué à la fabrication du chocolat et leur vision des choses très premium et respectueuse. En visitant leur fabrique, j'ai vu les machines et autres outils qui servent à transformer les fèves de cacao en délicieuses tablettes. Dans la même veine d'ailleurs, j'ai rencontré Naomi Martineau, qui il y a quelques années a décidé de relancer la filière cacao guadeloupéenne et produire du délicieux chocolat 100% sur cette île.
Dans l'idée déjà, c'était ça, c'était un peu viscéral de se dire bah, j'ai envie de faire un chocolat à partir de cabosse et de fèves de cacao de chez moi. Pour la petite histoire, la Guadeloupe a été premier producteur de cacao mondial dans les années 1700. Cette culture, elle a été arrêtée sur plusieurs phases. D'abord parce qu'il y a eu des choix économiques qui ont été faits. On a préféré passer sur de la canne et de la banane. Parce qu'aussi, le cacaoyer a eu une maladie. Il reste encore, évidemment, pas mal de vestiges et d'anciennes exploitations. C'est en partie, en grande partie, où je me fournis. Certains agriculteurs ont gardé leurs petites exploitations, ont fait de la diversification sur le côté. J'ai testé des centaines et des centaines de fois pour commencer à maîtriser cette matière-là. Ça a été le plus gros challenge.
Naomi est à la fois agricultrice et chocolatière et cette discussion était particulièrement enrichissante sur ce sujet-là. Et puis j'ai rencontré Nance Mouret pour découvrir le métier de sourceur, qui est essentiel, surtout quand on connaît tous les enjeux que je vais résumer et qui vont suivre.
La filière cacao, c'est une filière qui est longue, où il y a historiquement beaucoup d'intermédiaires. Donc l'idée dans nos partenariats, c'est de vraiment venir couper au maximum le nombre d'intermédiaires. Raccourcir les filières, ça veut dire une meilleure répartition de la valeur ajoutée. pour le producteur et faciliter la transmission des messages entre l'amont et l'aval. Pour moi, le sourcing, c'est pas seulement aller chercher des cacaos rares. Je pense qu'aujourd'hui, faut dépasser, c'est-à-dire cette vision presque un peu archaïque du sourcing où on doit faire absolument rêver, on doit absolument aller chercher un cacao qui n'existe nulle part ailleurs. Je pense que ça existe évidemment, hein, mais il faut savoir systématiquement le relier à une vraie valeur éthique.
Et puis, parce que c'est un sujet essentiel aujourd'hui, je me suis intéressée à l'impact environnemental du cacao et du chocolat avec Benjamin Voirin.
Le chocolat aujourd'hui, c'est un vrai sujet carbone, c'est un vrai sujet biodiversité, c'est un vrai problème aussi, le non-respect des droits humains. C'est un produit qui est très fortement émetteur de gaz à effet de serre. Au kilo, par exemple, on est à peu près sur un chocolat noir à 17 kilos équivalent CO2 par kilogramme de produit fini. Donc sur une tablette de chocolat, globalement, on serait entre 2 et 4 kilos CO2 par tablette. Ce qui correspond globalement à une voiture qui roule entre 5 et 10 bornes. Et pourquoi en fait c'est aussi émetteur? C'est parce que le cacao, c'est pas un produit aujourd'hui qui est très vertueux pour l'environnement, pour deux raisons. La première raison, ça va être l'utilisation de produits phytosanitaires sur les parcelles et les intrants agricoles. Et les engrais azotés, donc des engrais de synthèse, aujourd'hui sont très 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 émetteurs de gaz à effet de serre dans leur fabrication. Et enfin, la deuxième autre raison, qui est une raison majeure, ça va être la déforestation. 90% des aires protégées et des forêts primaires d'Afrique de l'Ouest ont été déforestées ces 40 ou 50 dernières années, au profit justement de grandes cultures, notamment les cacaoyers.
Avec Benjamin, j'ai découvert que le plus problématique dans le cacao, c'était la déforestation. On consomme tellement toujours plus de chocolat qu'il faut créer de nouvelles zones de culture pour pouvoir cultiver du cacao. Et l'agriculture telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui pousse toujours à plus de productivité, pousse non seulement à déforester, mais aussi à utiliser des intrants chimiques qui vont nuire in fine à la biodiversité. Et ça nuit aussi à celles et ceux qui le produisent. À ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir la trappe des enjeux majeurs de ce produit qu'on aime tant, environnement, social, économie et géopolitique. Parce qu'en continuant mes recherches et en lisant Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao, qui a été écrit par Sami Manga, je ne pouvais plus ignorer l'impact social du chocolat. En 2024 encore, la production de cacao contribue à exploiter des millions de personnes sous-payées pour produire les milliers de tonnes que nous consommons chaque année et qui parfois tuent plus ou moins directement.
C'est tout un univers que les enfants des cultivateurs africains et en Amérique du Sud ne connaissent pas. Il y a la dimension humaine simplement, c'est-à-dire que les producteurs de cacao, les cultivateurs eux-mêmes ne bénéficient pas normalement de cette production qui fait des milliards, des riches, qui fait qui crée une économie. Il y a une bouche du chocolat, il y a une bouche du cacao, et dans ces bouches du chocolat et du cacao, ce qui compte moins, c'est ceux qui produisent la matière première. Les gens doivent savoir que c'est rue de la culture du cacao. C'est des millions de gens qui sont mobilisés à fournir l'Occident en fèves. C'est des millions de gens qui travaillent pour qu'il y ait le chocolat, justement, tous les jours dans tous les petits coins, dans les boutiques en Europe. Mais on ne parle jamais assez de ceux qui produisent la matière première.
Persuadé que la poésie sauvera le monde, c'est cette prose que Sami a choisie pour nous dépeindre la triste réalité des cultivateurs et cultivatrices de cacao. J'avais envie de vous en lire un passage. Ce passage est issu du chapitre 3 de son livre qui s'intitule « La tyrannie de l'or vert ». Un après-midi de novembre, alors que la deuxième vente annuelle se tenait sous le grand manguier de notre cour, en présence des notables, des planteurs, des inspecteurs municipaux, des épouses, des coépouses, des maîtresses, des enfants, des commerçants, des escrocs et autres ivrognes, des centaines de sacs se faisaient examiner, sonder au poinçon et peser à la hâte par de jeunes agents baraqués. Ceux-ci avaient acquis une remarquable agilité dans l'art de cintrer ces sacs de 100 kg pour ensuite les balancer à leurs collègues, suspendus sur la benne, qui, à leur tour, les propulsaient au fond du camion avec une dextérité spectaculaire. En réalité, bien que ce fût un des jours les plus festifs de l'année pour toute la localité, surtout pour nous les enfants parce qu'on nous gavait de bonbons, de caramel, de beignets de manioc sucrés et de brochettes de poisson, l'événement me rendait extrêmement triste. Au fond de moi, je me sentais dépossédée, volés, outrés, découragés, de voir partir le résultat brut d'un dur labeur en échange de quelques billets de francs CFA qui allaient se raréfier en à peine quelques semaines. Toutes ces fèves de sueur et de sang dont nous nous occupions seuls tout au long de l'année disparaissaient en seulement quelques heures après la visite des hommes blancs. Ce jour-là, j'avais finalement pris mon courage à deux mains et je m'étais discrètement approchée de lui. « Grand-père, pourquoi ces gens prennent tout notre cacao ?»« Parce qu'il leur appartient, fiston. »« Comment ça, il leur appartient ?»« Abena, tu m'as bien entendu. » Grand-père, ce cacao vient de notre plantation. Oui, mais c'est pour eux que nous travaillons cette plantation depuis des générations. Pourquoi nous travaillons pour eux? Parce que c'est comme ça. Grand-père, nous ne sommes pas des esclaves. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Écoute, mon petit, nous sommes leurs esclaves parce que nous avons besoin de leur argent. Mais ce sont eux qui ont besoin de notre cacao. Abena, que ferions-nous de notre cacao si ces gens ne venaient pas l'acheter? Et ils font quoi de tout ce cacao qu'ils viennent prendre chez nous tout le temps? Je n'en sais pas grand-chose, mon petit. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais su ce que ces fèves deviennent réellement une fois partie de notre village. Ils ne t'ont jamais rien dit? Jamais. Pourquoi? Parce que ces blancs ne parlent jamais de ça. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République et le gouvernement encouragent vivement tous les villageois de notre pays à cultiver plus de cacao pour le développement du Cameroun. Je trouve que c'est un bon passage qui, à la fois, fait prendre conscience, justement, de toute cette réalité et qui est très puissant. Ce livre, vraiment, je vous invite une nouvelle fois vivement à le lire parce que, personnellement, il m'a profondément marqué. Et à la fin de cet épisode, de cette lecture, avec Samy, j'avais ouvert la deuxième brèche et une troisième pointée le bout de son nez, l'économie et la géopolitique.
Toute l'histoire du cacao est faite comme ça, de booms successifs. Et à chaque boom, c'est un pays qui remplace l'autre, ou éventuellement la région d'un pays qui remplace une première région du pays. L'histoire du cacao, c'est une histoire de migration, de déplacement. Donc aujourd'hui, on est à 5 millions de tonnes. Une grande partie de ces 5 millions de tonnes sont produites à partir de zones qui étaient couvertes de forêts tropicales. On peut le regretter, mais c'est l'histoire du développement inéluctable. Tout ça rentre dans l'histoire structurelle du cacao. La récession est déjà programmée quand le boom arrive. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une baisse de production de sans doute 20%. Au Ghana, c'est un peu plus. Ce ne sont pas des événements conjoncturels. Au fur et à mesure que les migrants dévorent la forêt, il y a tout un tas de conditions de culture qui changent. Tous les bénéfices que la forêt avait apportés un temps s'évanouissent. Et puis, évidemment, il y a une part de changement climatique qui n'est pas seulement liée au changement climatique mondial, mais qui est liée au changement climatique local par disparition de la forêt.
Pour explorer cet autre pilier, j'ai donc rencontré François Ruff, économiste au CIRAD. L'objectif avec lui, c'était de comprendre le fonctionnement cyclique et économique du cacao. À ce moment-là, je me rends compte que tout est un cercle vicieux. Les cultivateurs et cultivatrices, en réalité, ils n'ont pas vraiment le choix que de travailler le cacao, même s'ils ne les rémunèrent que très, même trop peu, parce que c'est ce qui leur permet de vivre. C'est ce que François m'explique dans l'épisode. Il y a énormément de cultivateurs qui sont en réalité des migrants qui, en arrivant dans un pays, voient ça comme une occasion de pouvoir gagner leur vie. Et puis, il y a également, un peu comme je l'ai lu dans le passage, toute la politique des pays, en Afrique par exemple, qui va aussi beaucoup inciter à produire du cacao. Et puis, dans le modèle agricole actuel, la course au rendement, c'est ce que je disais tout à l'heure, continue en fait à inciter constamment les producteurs et productrices à agrandir leurs exploitations et donc à déforester. Forcément, en déforestant, on réduit la qualité des sols et les services écosystémiques qui vont avec. Ça va entraîner une perte de rendement. Et perte de rendement signifie donc perte d'argent, donc pour les producteurs, c'est pas possible. Donc il faut continuer à déforester pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Donc, c'est un vrai cercle vicieux et c'est un piège infini, en fait. Et puis François m'explique aussi que tout le fonctionnement économique du chocolat est très cyclique. Un pays producteur finit par en remplacer un autre, qui se fait lui-même remplacer, etc., etc. Donc à ce stade, quand on a appris tout ça, ça peut paraître vraiment déprimant. Ce cercle sans fin peut vraiment vite donner l'impression qu'on ne peut rien faire. Et c'est un petit peu la sensation que j'ai pu avoir aussi en découvrant en fait à chaque fois. Alors à chaque fois dans les épisodes, j'ai toujours demandé à mes invités quelques pistes à explorer pour pouvoir agir, pour pas rester là-dedans et effectivement pour pas rester dans ce côté très déprimant de « en fait on peut rien faire ». Et je pense que c'est pas vrai. Évidemment, je vais pas vous dire, et c'est vraiment pas l'objectif de moi vous dire quoi faire ni comment agir face à tout cela. Mais j'avais envie, pour clore cet épisode et clore cette petite série d'épisodes, de vous dire ce que personnellement je retiens de toute cette enquête. Le plus important pour moi, c'était de déclencher en fait une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'était d'abord chez moi, pour ne plus pouvoir nier en fait tout ce fonctionnement, pour être mise devant le fait accompli et me dire « je pouvais pas dire que je savais pas ». Évidemment, après, j'espère aussi peut-être avoir déclenché cette prise de conscience chez certains ou certaines d'entre vous. Mais dans tous les cas, moi j'avoue que je vais plus voir le chocolat de la même manière. J'ai découvert trop de choses, j'ai appris énormément et j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas vu de mes propres yeux, mais en tout cas, on m'a raconté, on m'a expliqué, j'ai lu beaucoup de ressources qui m'ont fait aussi beaucoup ouvrir les yeux sur tous ces sujets. Et j'espère vraiment rester sensible à ce sujet encore longtemps, continuer à tenter de le faire résonner autour de moi. Je dois forcément encore laisser mûrir un petit peu tout ça, ça reste très récent, et tous ces apprentissages, ils viennent d'arriver, donc j'ai envie de me laisser aussi un petit peu le temps pour pouvoir digérer toutes ces infos et voir qu'est-ce que j'ai envie de faire à titre individuel. Est-ce que c'est changer ma consommation de chocolat, arrêter complètement de consommer certaines marques, par exemple. Donc tout ça, je sais pas encore, mais je sais que ça a tellement résonné en moi, ça m'a tellement marqué et choqué parce que je suis aussi une grande gourmande et une grande consommatrice de chocolat, donc forcément. C'est un sujet qui m'a beaucoup marqué, que j'ai envie énormément de continuer à creuser. Donc je laisse mûrir un petit peu tout ça dans ma tête, mais je pense qu'on y reviendra. Je pense que j'ai envie de rejoindre ce grand combat aussi à ma manière, comme on en parlait avec Samy, un peu façon colibri peut-être. Mais en tout cas, je sais que j'ai très envie de continuer à aborder ce sujet, donc je vous tiendrai évidemment au courant de quelle forme ça va prendre, qu'est-ce que ce sera, mais voilà, en tout cas, je peux vous le dire, c'est un sujet qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, si vous avez aimé ces épisodes, si vous avez des réflexions à partir de tout ça, si chez vous aussi ça a fait résonner certaines choses ou quoi ou qu'est-ce, je serais ravie vraiment de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, mon compte c'est @lea_rvrd. Je serais vraiment ravie de continuer cette discussion avec vous, voir aussi comment ça a pu résonner chez vous, qu'est-ce que vous avez découvert, est-ce que vous le saviez un petit peu et puis vous vouliez pas trop vous l'avouer, mais je pense vraiment, et vraiment c'est ce que j'ai dit aussi dans plusieurs de ces épisodes avec les invités que j'ai pu recevoir, je pense quand même que en Europe ou dans les pays du Nord, comme le dit Samy, en réalité, on est conscient sans trop l'être non plus de ce qui se passe, on ne le sait pas non plus complètement. Et voilà, moi l'idée c'était d'ouvrir les yeux et de se dire pour le coup maintenant on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Et maintenant c'est à nous de décider comment agir face à tout ça. En tout cas voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette petite enquête et j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous invite à nouveau à venir en discuter, ça me ferait très plaisir. J'espère, pour ceux qui n'ont pas écouté encore peut-être tous les épisodes, que ce petit résumé vous donnera envie de le faire. Moi, je vous invite effectivement à les écouter, peut-être les réécouter s'il y en a que vous avez envie de recomprendre ou je ne sais pas. Je vous les remettrai tous dans le descriptif de l'épisode. De toute façon, c'est tous les derniers épisodes. Je vous remercie encore une fois et puis moi, je vous dis à très très vite. Et prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @lea_rvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt !